Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, on est en délocalisation au speed dating d'Arkéa, édition placée, on peut le dire, sous haute tension, avec une politique de logement qui pose question, avec d'ailleurs le ministre du logement qui a pris son nouveau mandat de ministre à partir du 20 juillet 2023. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrice Vergritte.
Bonjour.
Bonjour monsieur Vergritte. Vous êtes nommé depuis le 20 juillet 2023 et tout de suite un afflux de questions, de problématiques vous est venu. Vous avez beaucoup publié et je salue votre action puisque vous n'avez pas hésité, monsieur le ministre, à vous exprimer sur l'ensemble des médias. Ça n'a pas toujours été le cas parmi vos prédécesseurs, donc on peut saluer l'action. Vous avez éludé aucune question. Moi, la première question que je voulais vous poser, c'est de reprendre les infos que vous avez transmises ces derniers temps. Vous avez dit sur France Info que vous allez tout mettre en œuvre pour amortir la crise qui s'annonce, qui est déjà là, on peut le dire. Vous avez évoqué le calendrier de la rénovation énergétique. Vous avez aussi dit très fortement que vous allez tout faire pour encourager l'acquisition. Et vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, en plénière, que vous étiez très soucieux de la mixité sociale. Monsieur le ministre, quels sont les contours globaux de votre politique que vous comptez mener? Quels sont les premiers chantiers auxquels vous vous êtes attelé?
La conjoncture l'impose. Deux axes de travail, finalement, aujourd'hui. J'ai envie de dire, le premier s'impose et le deuxième correspond davantage à une vision. Le premier, celui qui s'impose, vous l'avez dit, a aujourd'hui, dans le secteur de l'immobilier, donc en particulier dans la construction de logements, une crise profonde, inédite, parce que couplée avec d'autres crises de l'immobilier. Et évidemment, la première urgence, c'est d'y répondre. Et donc ce qu'on a essayé de mettre en œuvre, là, maintenant, depuis fin juillet, c'est de voir quels sont les fondamentaux de l'immobilier, du logement, aujourd'hui, la production du logement, le modèle économique de la production du logement, pour essayer de voir, finalement, sur ces différents fondamentaux, comment on pouvait faire évoluer les choses pour essayer de relancer. Donc pas une recette magique, pas un objet particulier, pas un cellier de 2008... mais un travail sur l'accession à la propriété, le locatif, la production de locatif, le foncier, le rachat également par la Caisse des dépôts et Action Logement d'un certain nombre de logements aux promoteurs. Donc ça, c'est la première dimension de la politique du logement qu'on veut mettre en place, c'est la réponse à l'urgence. Et la réponse à l'urgence à travers, j'ai envie de dire, différents canaux, une dimension très très large de ce qu'on peut essayer de faire. Vous parliez de l'accession, le prêt à taux zéro. On est en train de regarder ces critères pour le relancer, par exemple, dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Pas forcément le développer dans les secteurs les moins tendus, mais comment lui redonner, le rebooster dans les secteurs les plus tendus, parce que effectivement les critères n'ont pas été indexés, par exemple, et donc il est moins efficace. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis après, je disais, il y a un deuxième temps qui correspond davantage à une vision de l'avenir de la politique du logement. Pour moi, pour le gouvernement, pour le président de la République, ça a été clair, il l'a dit, l'avenir de la politique du logement est décentralisé. Ça veut dire donner plus de moyens aux collectivités locales pour soutenir la production. Par exemple, je pense à l'aide à la pierre aux bailleurs sociaux, pour avoir des politiques foncières ambitieuses. Est-ce qu'on doit parler de renforcement d'un certain nombre de préemptions, de droits de préemption, pour pouvoir réguler les marchés? On parle souvent des meublés touristiques. Mmh. Meublés touristiques, il y a une dimension fiscale, mais il n'y a pas qu'une dimension fiscale. Il y a aussi une dimension de régulation par la puissance publique. Donc l'objectif, c'est, dans cette seconde partie, j'ai envie de dire, de la politique du logement, c'est donner davantage de moyens aux collectivités locales, mais aussi aux acteurs de terrain, je pense aux entreprises. Chez moi, à Dunkerque, j'ai des gigafactories qui s'intéressent à la production de logements, qui ont besoin de logements pour leurs salariés, qui sont même prêts à s'investir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément les supports.
Est-ce que les collectivités locales, qui ont vu quand même leur dotation fondre de façon assez significative, vous le savez, vous avez été maire, vu des relais fiscaux, des marges de manœuvre fiscales qui ont été réduites, alors je ne vais pas revenir sur la suppression de la taxe d'habitation, mais comment on peut dire aux maires qui sont parfois stressés, et pour la première fois depuis plus de 40 ans, on voit des maires même jeter l'éponge en cours de mandat, vous le savez. C'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Comment on peut aider les maires? Quand on entend ce que vous dites. Vous dites on va renforcer le pouvoir des maires, on va leur donner les moyens de le faire. Mais vous n'avez pas l'impression que dans la perception qu'ont les maires de France, il y a une espèce de dichotomie entre une politique qui est menée, qui parfois les a un peu oubliés, et des relais, des marges de manœuvre qu'ils n'ont plus pour pouvoir construire? Quand on interroge les maires, d'ailleurs on vous a déjà interrogé, on vous dit voilà, pourquoi vous construisez peu? Il vous dit mais parce que j'ai plus les moyens de créer les infrastructures publiques, parce que je ne suis plus capable d'absorber une démographie positive. Vous êtes d'accord, monsieur le ministre, que c'est une véritable problématique?
Alors, D'abord, ce n'est pas forcément les maires qui doivent être en première ligne. Je pense davantage à l'intercommunalité aujourd'hui, parce que je pense que c'est la bonne échelle. Ce qu'on appelle l'AOH, en fait. Donc, notamment pour les métropoles, pour les communautés urbaines, pour les communautés d'agglomération. Il me semble que c'est le niveau de l'intercommunalité qui est pertinent. On peut en discuter pour la communauté de communes, mais en tout cas, pour ces plus grandes agglomérations, c'est le bon niveau. C'est le bon niveau. Deuxièmement, évidemment, si on dit décentralisation, on dit moyen. C'est-à-dire, effectivement, si demain on veut développer une politique foncière à l'échelle locale, il faut donner des moyens aux collectivités locales de pouvoir développer cette politique foncière. Donc, évidemment, la politique de décentralisation mettra sur la table la question des moyens à la disposition de ces intercommunalités demain pour développer une politique d'habitat. Mon rêve, d'ailleurs, ce serait que ces moyens soient fléchés sur l'habitat.
Vous allez donc renforcer, vous annoncez, vous allez renforcer les moyens financiers, structurels pour les collectivités
mais
locales.
Je crois que c'est constitutionnel, d'ailleurs. Mais en tout cas, le principe de compensation pour la décentralisation, c'est quelque chose qui reste large. Mais au-delà de la question de la compensation, ce qui m'intéresse, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je disais faut donner davantage d'outils aux collectivités locales, je pense qu'il faut donner aussi des outils fiscaux aux collectivités locales. Si on veut demain effectivement avoir une politique foncière, il faudra qu'il y ait effectivement des dispositifs. Alors ce que je voudrais, ça c'est mon rêve, c'est qu'effectivement ces nouveaux outils fiscaux soient bien fléchés sur l'habitat. C'est-à-dire que si on développe une nouvelle capacité à lever l'impôt pour les collectivités locales et renvoyer aux élus locaux la responsabilité de leurs actes, c'est-à-dire est-ce qu'ils lèvent ou est-ce qu'ils ne lèvent pas. On a connu ça dans le cadre de la GEMAPI. GEMAPI, par exemple, transfert d'une compétence aux collectivités locales, moi j'ai fait, et la possibilité, effectivement, de pouvoir lever
transfert
des fonds.
De la compétence en y associant la recette.
Exactement, en y associant la recette. Et la décentralisation ne peut se penser que comme ça. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de donner aux collectivités les moyens de pouvoir développer des
mais
politiques
ambitieuses. Mais monsieur le ministre, vous qui êtes maire, qui a adhéré aux associations de maires, que ce soit l'AMF, ou que ce soit aussi les petits maires, les associations de maires ruraux, vous êtes conscient du message que vous leur délivrez. Vous êtes très attendu. Là-dessus, vous savez.
J'espère bien. Mais en tout cas, le message que je leur délivre, c'est, et ils le savent, aujourd'hui, demander à un maire, un président d'intercommunalité, j'insiste sur ce niveau-là quand même, un président d'intercommunalité dans la Creuse, de lui dire que la politique du logement sera la même chez lui qu'à Paris, dira, mais c'est une folie. Donc effectivement, chez moi, les enjeux de politique du logement, ce sera davantage la question de la vacance dans le centre-ville, la question de la réorganisation de mon centre-ville, parce que j'ai des logements obsolètes et que c'est là que j'ai besoin.
Est-ce que ça veut dire que vous allez réorganiser le zonage ?
Ça veut dire qu'il faudra en discuter avec les élus locaux et en tout cas leur donner les moyens d'avoir les outils adaptés à leur situation. Vous savez, moi, à Dunkerque...
En fait, vous souhaitez leur laisser la main.
Pardon ?
Vous souhaitez leur laisser la main.
Oui, c'est à eux de définir la politique du logement. Je disais l'exemple à Dunkerque. Dunkerque, je vais avoir 20 000 emplois qui vont arriver. Ma priorité, c'est de produire du logement et de produire du logement social. À d'autres endroits, il y a beaucoup de vacances. C'est pas le même sujet. Donc là, il faut des outils où on a des problématiques de vacances. Je suis allé au Pays Basque. Le Pays Basque voulait l'encadrement des loyers. Il me demandait l'avis. Aujourd'hui, il faut l'accord du ministre. Mais pourquoi il faut l'accord du ministre ? Je veux dire, s'ils pensent qu'au Pays Basque, c'est eux qui sont comptables devant les électeurs. Moi, je connais rien au Pays Basque. J'y étais jamais allé avant, d'ailleurs. Donc c'est à eux, effectivement, devant leurs électeurs, d'être comptables et de dire, voilà. On parle des meublés touristiques, la régulation des meublés touristiques, je le disais tout à l'heure. Énorme sujet aujourd'hui.
L'équité fiscale face à la location classique.
Oui, alors il y a la question de la fiscalité, donc ça on va essayer de l'aborder dans le projet de loi de finances qui arrive maintenant, mais il n'y a pas que la question de la fiscalité. À Paris, on a mis en place la compensation, par exemple, c'est-à-dire que toute demande de meublés touristiques, il faut justifier la construction d'un nouveau logement. Très bien. On voit qu'aujourd'hui, ça commence à atteindre ses limites. Ça a été utile pour freiner, mais ça a atteint ses limites. Saint-Malo est allé jusqu'au quota. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement légal, mais en tout cas, c'est un nouvel outil. Demain, on peut penser à d'autres outils qui permettront de réguler. Parce qu'il n'y a pas que la fiscalité. Parce qu'à fiscalité égale, on peut quand même avoir sur certains territoires le développement d'un certain nombre de meublés touristiques.
Quand vous dites outils... Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit ?
Eh ben non, justement, c'est ça qu'il faut faire à définir. Le but de la décentralisation, c'est quand même de mener ces concertations. Je vous dis, Saint-Malo a par exemple expérimenté le quota, c'est-à-dire un quota de meublés touristiques. Est-ce qu'on le légalise ou est-ce qu'on ne le légalise pas ? Là, Saint-Malo nous fait une proposition quelque part. Mais je suis certain que d'autres collectivités, j'en ai déjà entendu des idées, ont d'autres idées pour pouvoir réguler les meublés touristiques. En fait, la question, c'est il faut donner la plus large boîte à outils possible aux collectivités locales, aux AOH, donc aux en majorité les intercommunalités, et après, à eux de définir la politique du logement et de prendre les bons outils. À tel endroit, on prendra l'encadrement des loyers. À d'autres endroits, moi, à Dunkerque, j'ai pas besoin d'encadrement des loyers.
Et le gouvernement est disposé à leur donner les moyens de le faire.
Le but du jeu, c'est ça. But du jeu de la décentralisation de la politique du logement, c'est de construire avec les associations d'élus cette boîte à outils qui est nécessaire demain pour justement avoir des politiques du logement véritablement différenciées et adaptées à chacun des territoires.
Dernier sujet, monsieur le ministre, et merci de répondre sans éluder aucune question ici au micro de Radio Immo, la question de la rénovation énergétique.
Oui.
C'est un peu la dent creuse, on le voit. Vous avez dit à France Info le 12 septembre que, pour l'instant, vous ne revoyez pas le calendrier prévu, qui prévoit, par exemple, dès 2025, le retrait des étiquettes G sur le parc locatif privé. On sait que déjà aujourd'hui, il y a un vrai sujet au niveau du logement qui décourage les étudiants, mais ça, vous le savez, vous êtes beaucoup exprimé, qui décourage aussi les jeunes actifs qui ne signeront pas leur contrat dans les grandes métropoles. Ce soir, à 18h30, j'aurai le plaisir d'animer la plus grande Assemblée Générale de Copropriété d'Europe, avec 150 000 copropriétaires connectés dans 170 villes sur la question de la rénovation énergétique. C'est organisé au siège de Citia Immobilier. Vous savez, c'est un acteur majeur de l'immobilier. Ils vont être connectés ce soir, les copropriétaires. Ils se posent beaucoup de questions. Vous, Patrice Vergriete, ministre délégué au logement, quel message vous souhaiteriez leur faire passer ?
Alors, d'abord, on est en train de s'adresser aux copropriétaires bailleurs. On n'est pas en train de s'intéresser aux copropriétaires occupants. C'est-à-dire les étiquettes n'ont rien à voir avec l'occupation. Deuxième message que je veux leur faire passer, c'est la rénovation énergétique, il faut avancer. On ne va pas rester avec des étiquettes de DPEG encore pendant des siècles. Il faut y aller. Enfin, je veux dire... L'urgence climatique, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, contester ça, c'est aller dans une très mauvaise direction. Donc là-dessus, il faut avancer sur la question de la rénovation. La question ce qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement, les G sortent du marché locatif aujourd'hui, tel que c'est prévu, en 2025, et les F en 2028. Bon. 2028, ça me paraît une date qui permet de faire des travaux de copropriété, quand même, et de poser cette question... De l'évolution du DPE des logements. Bon. La contrainte, c'est finalement 2025. C'est là où il y a une peur aujourd'hui. Et donc, cette sortie des étiquettes G. Voilà. Je rappelle que les étiquettes F ne sortent pas en 2025.
Oui, mais donc, une peur est aussi un coût non négligeable. Et les copropriétaires, d'ailleurs, se posent la question.
Je vais y venir. Déjà sur le calendrier, première question. On est en train de faire un travail aujourd'hui pour voir effectivement combien ça représente d'investissement de passer de G en F. Et s'il y a la nécessité de travaux de copropriété. Si finalement, le coût n'est pas très élevé, et si finalement, je ne sais pas, ce travail technique est en cours, et si finalement il n'y a pas un impérieux besoin de travaux de copropriété pour passer de G en F, on peut imaginer un outil, y compris un accompagnement financier, pour permettre de passer de G en F avant 2025. Comme ça, on ne donne pas un mauvais signal à la question de l'écologie, à la question de la lutte contre le dérèglement climatique. On avance et on renvoie effectivement à 2028 peut-être des travaux plus lourds de copropriété. Puis après, il y a l'échéance. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours. Donc si on arrive à démontrer que finalement, il n'y a pas besoin de gros travaux de copropriété pour ramener tous les logements en F, ça réglerait la situation. On peut poser la question de l'accompagnement financier. Dans le cadre de MaPrimeRénov', c'est des choses qui peuvent être imaginées. Et après, il y a 2028. Il y a 2028 où là, effectivement, les F et les G vont sortir du marché locatif. Et là, écoutez, ça nous donne quand même un peu de temps. Et on va voir...
5 millions de logements.
Et on est en train de réfléchir à la façon dont on va accompagner les copropriétés à la fois financièrement, mais à la fois techniquement aussi, pour pouvoir avoir cet objectif de 2028. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre sur la table un report de calendrier. Je n'ai pas envie de le faire, parce que je pense que ce serait un très mauvais signal pour la lutte contre le dérèglement climatique et pour notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette idée qu'on doit être dans cette transition écologique. On va regarder ce qui est nécessaire pour passer de G en F. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de travaux de copropriété ? Voilà. Et puis après, 2028, comment on trouve les outils financiers, réglementaires, qui permettent effectivement de faire ces travaux de copropriété qui sont nécessaires, qui sont nécessaires.
Ces copropriétaires-là vous parlent, ils vous posent question, ils seront là ce soir. Si vous deviez résumer comme ça, en une phrase, pour les engager à les faire ces travaux, comme ça, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit comme...
Le gouvernement sera à leur côté. Évidemment, il est hors de question pour moi d'imaginer demain que ces logements sortent du marché locatif. Donc on sera attentif à ces situations. Et donc ils peuvent faire confiance au gouvernement sur cette question.
Eh bien écoutez, vous avez les remerciements de ces copropriétaires et du groupe Citia Immobilier. Merci monsieur le ministre.
Merci.
Patrice Vergriete. Je rappelle que vous êtes ministre délégué au logement. Merci encore d'être passé par le plateau de Renault Immo. On se retrouve dans quelques instants.
Le speed dating de l'immobilier avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Immo et Radio Territoria.